Voilà, je m'appelle Will, je suis étudiant à l'Institut biblique. Comme j'ai dit, je suis aussi stagiaire dans cette église. C'est vraiment un grand privilège pour moi d'être avec vous ce matin pour ouvrir la parole de Dieu ensemble. Vous trouverez le passage que nous venons de lire dans les feuillets, les deux passages que nous venons de lire, ainsi qu'un plan, le plan de la prédication, si vous voulez suivre ce que je vais dire. Mais avant cela, je vous invite à prier. Prions. En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom sera grand parmi les nations. Notre Père, c'est notre prière ce matin que par la prédication de ta parole, ton nom soit grand parmi les nations. Ouvre nos cœurs et rends-nous attentifs à ce que tu as à nous dire dans ce dernier chapitre de Malachie. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça fait vraiment une différence d'être chrétien? J'imagine que je ne suis pas la seule personne dans cette salle à laquelle il est arrivé de poser cette question. Est-ce que ça fait vraiment une différence d'être chrétien? À quoi ça sert d'appartenir au Dieu de l'univers? Qu'est-ce que ça change vraiment dans la vie? Je vous donne quelques exemples. La prière. Vous est-il déjà arrivé de vous demander est-ce que ça fait vraiment la différence de prier? Je peux prier pendant des années et rien ne change. On se demande à quoi ça sert vraiment. Pour les parents ici, qu'en est-il de ces moments où vous essayez de partager ou de parler de la Bible à vos enfants? Mon épouse Johanna et moi, nous essayons de lire une courte histoire de la Bible et de chanter quelques chansons chaque soir avec nos enfants. En général, l'un des deux est plus intéressé par sa petite voiture, tandis que l'autre essaye de sauter du canapé, et c'est souvent très chaotique. Et je me suis demandé plus d'une fois, souvent avec un regard fatigué à ma femme, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça? Est-ce que ça fait vraiment une différence de parler de Jésus au travail ou à l'école? Ça peut être très coûteux, n'est-ce pas, de dire à nos camarades de classe ou à nos collègues que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu, ou que la Bible dit que le sexe est réservé uniquement pour le mariage entre un homme et une femme. À quoi ça sert d'être fidèle à Dieu si mon salaire va être réduit ou si on va me harceler à cause de ma foi? Ou prenons l'exemple de l'Église. Est-ce que ça ferait vraiment une différence si je participais au brunch des femmes, ou si j'assistais au groupe de quartier, ou si je parlais aux nouvelles personnes après le culte, ou si je me formais à l'Institut biblique? Qu'est-ce que ça change vraiment? On se dit, je n'ai jamais vu quelqu'un venir au Seigneur. L'impact de notre Église reste très petit. Les églises en Belgique manquent toujours de pasteurs. Est-ce que ça fait vraiment une différence d'être chrétien? En fait, ce n'est pas une nouvelle question. C'est la question qui se trouve au cœur du livre de Malachie que nous étudions depuis le mois de septembre. Elle est là au début de notre passage qui est imprimé sur vos feuilles. Regardez avec moi Malachie 3, 13 à 15. Malachie 3, 13 à 15. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, le Maître de l'univers? Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent, ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en réchappent. Malachie, il s'adresse à la génération qui est revenue de l'exil à Babylone. C'est probablement l'année 430 avant Jésus-Christ. Et cette génération avait tout abandonné pour servir Dieu. En fait, la vie à Babylone n'était pas si mauvaise. Les exilés, ils avaient des maisons, des jardins et peut-être des bons emplois. Néanmoins, certains d'entre eux décident de quitter la grande ville de Babylone pour rentrer à Jérusalem, pour reconstruire leur ville qui a été brûlée, pour rebâtir le temple qui a été détruit. Et suite au pire moment de leur histoire, cette nouvelle génération s'est dit, cette fois-ci, les choses seront différentes. Et le peuple n'avait pas tort de le dire, parce qu'en effet, Dieu avait promis qu'après l'exil, il leur ferait du bien et il les rendrait plus nombreux que leurs ancêtres. Deutéronome 30, verset 5. Un nouveau roi glorieux régnerait sur le trône de David. La loi serait écrite sur le cœur de chacun. La gloire du dernier temple serait plus grande que celle du premier. Et toutes les nations afflueraient au mont Sion. Et alors, en lisant les versets 13 à 15 de notre texte, on voit que tout ne s'est pas passé comme prévu. Le peuple est en deuil, verset 14. Selon le verset 15, il est clair que les ennemis sont sur le point de les attaquer. De plus, les ennemis semblent prospérer tandis que le peuple croupit. Le peuple auquel Malachie écrit est désabusé et déçu. C'est pourquoi il dit au verset 14, « C'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres ?» Autrement dit, est-ce que ça fait vraiment une différence d'appartenir à Dieu ? Mais le but de Malachie, en écrivant ce livre, n'est pas de nous faire compatir à ces personnes qui passent par les mêmes frustrations que nous. Vous vous souvenez des problèmes que Malachie a soulevés ces dernières semaines pendant la série ? Offrir des sacrifices boiteux, tordre la vérité, s'engager dans les mariages mixtes, le divorce, voler Dieu en n'offrant pas la dîme. Dans un sens, certaines de ces pratiques sont très éloignées de notre contexte, jusqu'à ce que nous comprenions le problème fondamental auquel Malachie veut confronter ses lectures. Voici le problème dans Malachie. Face à la déception due au fait que les promesses de Dieu ne se sont pas encore réalisées, le peuple avait décidé de prendre les choses en main, de réaliser les promesses de Dieu eux-mêmes, par leur propre force, par leur propre religion. C'était une sorte de pragmatisme égocentrique. Mais selon Malachie, cela n'était pas une preuve de leur ingéniosité, mais de leur idolâtrie. La raison pour laquelle le peuple de Dieu se plaint contre Dieu dans ce verset, dans ce passage, c'est parce qu'elle est une génération déloyale. Le peuple a rompu l'alliance avec Dieu. Est-ce que ça fait vraiment une différence d'appartenir à Dieu ? Selon Malachie, dans ce livre, ça c'est une question révélatrice. Et donc Malachie écrit ce livre pour montrer ce qui est dans nos cœurs, nous aussi. Nous ne nous engageons peut-être pas dans toutes les mêmes pratiques que la génération qui a vécu en 430 avant Jésus-Christ, mais nous risquons d'avoir le même problème dans le cœur. Lorsque Dieu dit au verset 13 que les paroles de son peuple sont dures, ce n'est pas parce que c'est trop dur pour lui de réaliser ses promesses. Non, non, non. Elles sont dures parce que le peuple était infidèle. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est la réponse de Dieu face à ces accusations. Nous allons voir la réponse de Dieu face à un peuple déçu, désabusé et déloyal. Malachie 3, 13 à 24, c'est la conclusion extraordinaire à ce livre extraordinaire. Est-ce que ça fait vraiment une différence d'être chrétien? La réponse de Malachie pour nous ce matin est oui. Oui. Et cela pour deux raisons. C'est notre premier point. Dieu est attentif à ceux qui le craignent. Dieu est attentif à ceux qui le craignent. Est-ce que vous avez déjà vécu l'un de ces moments où la conversation bat son plein, où la tension est à son comble à cause d'une dispute, et tout d'un coup, l'atmosphère change complètement dans la salle? C'est ce qui se passe au verset 16. Regardez le verset 16. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. » Alors les accusations sont interrompues. Un petit groupe commence à se parler l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que les autres ont pu écouter la conversation? Bon, on ne sait pas. Tout ce que Malachi nous dit, c'est que ce groupe était composé de personnes qui craignaient l'Éternel. Est-ce qu'ils ont eu une épiphanie, un moment de conversion peut-être? On ne sait pas. Mais tout ce que Malachi nous dit, c'est que l'Éternel fut attentif et il écouta. Et ensuite, un livre de souvenirs fut écrit devant l'Éternel, verset 16 encore. Cela pourrait signifier que ces personnes ont écrit un livre eux-mêmes, ou cela pourrait signifier que l'un des, je sais pas, des fonctionnaires célestes l'écrit dans la présence du grand roi divin. Quoi qu'il en soit, ceux qui craignent l'Éternel et respectent son nom figurent dans le livre. Ça veut dire que leurs noms sont notés, leurs vies ne sont pas oubliées. Et ce verset est hautement significatif dans le livre de Malachie. Tout au long du livre de Malachie, le peuple a parlé à Dieu et leurs paroles ont été dures. Dieu ne regarde pas le peuple favorablement. En fait, Dieu avait dit ceci au début du livre. Vous vous souvenez de ce qu'on a lu en Malachie 1, verset 6. Dieu a dit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis un père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. À vous les prêtres qui méprisez mon nom. Donc voici ce qui compte vraiment pour Dieu. Voici ce qui fait la différence aux yeux de Dieu. Craindre l'Éternel et avoir son nom écrit dans le livre. Notre vie peut être une longue histoire de revers, de déceptions et d'échecs. Mais si nous craignons Dieu et si notre nom se trouve dans son livre, Dieu est attentif et il écoute. Qu'est-ce que cela veut dire, craindre Dieu? Je suis en train de lire cet excellent livre de Michael Reeves au sujet de la crainte de Dieu et il explique en quoi ça consiste. Et Samuel nous a déjà aidés aussi. Selon Michael Reeves, craindre Dieu, ce n'est ni la terreur, ni la religion sombre et sinistre. Non, craindre Dieu, c'est trembler de joie et s'émerveiller devant la beauté et la sainteté du Créateur et Rédempteur de l'univers. Je répète encore, craindre Dieu, c'est trembler de joie et s'émerveiller devant la beauté et la sainteté du Créateur et Rédempteur de l'univers. En fait, craindre Dieu, c'est presque un synonyme d'être chrétien. Écoutez ces paroles du prophète Jérémie, qui parle de ce que Dieu va accomplir dans la nouvelle alliance. Jérémie 32, verset 40, je conclurai avec eux une alliance éternelle d'après laquelle je ne renoncerai plus à eux, mais leur ferai du bien et mettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur. Et quelques versets plus tard, il ajoute ces paroles extraordinaires. Jérémie 33, verset 9, Jérusalem deviendra pour moi synonyme de réjouissance. Elle sera ma gloire et mon honneur devant toutes les nations de la terre. Lorsqu'elles apprendront tout le bien que je leur ferai, elles trembleront et seront bouleversées. Pourquoi? À cause de tout le bonheur et de tout le bien-être que je lui accorderai. Pour la toute première fois dans le livre de Malachie, Dieu est attentif. Pourquoi? Un groupe de personnes le craint. Dieu est attentif à ceux qui le craignent. Toutefois, le fait que Dieu soit attentif dans le présent, ça pourrait sembler une maigre consolation pour cette génération si déçue, cette génération d'Israélites si désabusée. Mais au verset 17 et 18, Dieu tourne le regard vers l'avenir. Il promet qu'un jour arrive où ceux qui le craignent lui appartiendront pour toujours. Et à ce jour-là, ce serait évident qu'appartenir à Dieu fait toute la différence. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Cette expression « ils m'appartiendront » au verset 17 signifie littéralement « ils seront mon bien propre, mon bien propre ». Ma fille Maybelline, elle a un nounours auquel elle est très attachée. Et si maman essaye de le ranger ou si son frère essaye de le lui piquer, Maybelline, elle démontre toute sa fureur vertueuse pour protéger son nounours. Elle, il est son bien propre. Et malheur à toi si tu essayes de prendre le nounours. Mais ça, c'est ce qu'on a dans ce verset. Dieu est attentif à son peuple. Non pas comme une caméra de vidéosurveillance est attentif, qui enregistre un crime, mais qui n'arrive pas à intervenir. Non, non, non. Dieu est attentif pour sauver son peuple, pour sauver son bien propre, le jour qu'il prépare. À ce jour-là, ceux qui craignent Dieu seront épargnés comme un père a compassion de son fils, comme une fille a compassion de son nounours, si vous voulez. À ce jour-là, la différence entre le juste et le méchant sera connue de tout le monde. Et remarquez au verset 18 comment Dieu tourne son regard vers ceux qui l'accusent. Et vous ? Les accusateurs du verset 13 à 15 auraient dû savoir que Dieu est attentif à ce qui se passe dans son monde. Il délivre les justes et il punit les méchants. C'est ce qu'il a fait en Malachie 1, en fait, en aimant Israël, mais en détruisant Édom. C'est ce qu'il a fait tout au long de l'histoire de la Bible, le déluge, Sodome et Gomorre, l'Exode. Est-ce que c'est ce qu'il fera de nouveau lors du jour qu'il prépare? Verset 18, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Il y a un sens dans lequel celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas ressemblent, au moins pour l'instant. Ils prennent tous les deux le métro, ils sortent tous les deux les poubelles le mardi matin, ils tombent tous les deux malades. D'un point de vue humain, ce serait facile de penser que craindre Dieu ne fait aucune différence dans la vie. Mais nous ne pouvons jamais regarder le monde d'un point de vue uniquement humain si on est chrétien. Non, Malachie veut nous faire comprendre que si nous craignons Dieu et que si notre nom est écrit dans son livre, ça fait toute la différence, aujourd'hui et à l'avenir. À ce stade, on risque de se poser la question, ok, je comprends, je sais que craindre Dieu fait toute la différence, je sais que craindre Dieu fera toute la différence, je crains Dieu, je suis chrétien. Mais quelle sera la différence? Quelle sera la différence entre le juste et le méchant? Alors la réponse de Dieu face aux accusations continue au verset 19 et 21. Et ça, c'est notre deuxième point. Est-ce que ça fait vraiment une différence d'être chrétien? Oui, Dieu agira pour ceux qui le craignent. Dieu agira pour ceux qui le craignent. Lisons les versets 19 à 21. En effet, voici venir ce jour, brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable, vous piétinerez les méchants, car ils seront comme de la poussière sur la plante de vos pieds. Le jour que je prépare, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Dans ces versets, Dieu parle d'un jour. C'est le même jour dont il a parlé au verset 17 et 18. Et on peut se demander, c'est quoi un jour? Un jour, c'est quand la nuit est finie. N'est-ce pas? Un jour, c'est quand le soleil se lève. C'est un nouveau départ. Mais le jour en question, au verset 19 à 21 n'est pas un jour, mais le jour. Le jour. Dieu prépare le jour où il fera montrer de manière définitive la différence entre le juste et le méchant. Lors de ce jour, deux choses auront lieu. D'abord, l'incinération et deuxièmement, la guérison. D'abord, verset 19, les hommes arrogants et ceux qui font le mal seront incinérés, anéantis. Ce jour sera brûlant comme un four. Voici le sort de tous ceux qui s'opposent à Dieu et à son peuple. Pensez aux incendies en France cet été. Lorsque le sol est sec à cause de la chaleur, le feu embrase vite les plantes. Tout est détruit. Et le feu dont il est question au verset 19 n'est pas un feu purificateur. Non, ce feu ne laissera ni racines ni rameaux. Autrement dit, par opposition à une incendie de forêt qui ne peut détruire que les branches et le tronc d'un arbre, le feu du jour de l'Éternel détruira tout. Même les racines qui se cachent sous le sol seront anéanties. Ce jour sera terrifiant. Mais remarquez comment ce verset répond directement à l'accusation du verset 15. Il ne faut pas penser que ce verset veut célébrer la violence et la destruction en soi. Non, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui refusent d'entendre le message de la Bible concernant le jugement de Dieu pour cette raison-là. Mais non, verset 15, le peuple de Dieu estime que Dieu n'est pas juste et que les hommes arrogants sont heureux et que ceux qui font le mal prospèrent. Et ils ont raison, au moins pour la seconde partie. En effet, oui, les méchants prospèrent pour un peu de temps, mais Dieu reste juste. Et le jour va venir où Dieu défendra sa réputation face aux accusations de son peuple et face à l'opposition de ses ennemis, en incinérant tous ceux qui font le mal, une fois pour toutes. La gloire de Dieu et le bien de son peuple en dépendent. Ça, c'est la première chose, l'incinération. Mais la deuxième chose qui aura lieu lors de ce jour se trouve au verset 20, la guérison. La guérison. Le soleil de justice se lèvera sur ceux qui craignent l'Éternel. Nous savons que le soleil peut être à la fois dangereux et réparateur, n'est-ce pas? Les rayons du soleil nous font du bien, surtout en novembre. Mais quand c'est l'été, la crème solaire est essentielle. Et si le verset 19 parle du jour de jugement, alors ce jour de jugement a lieu grâce au soleil qui se lève. Pour les méchants, la lumière les embrase comme quelqu'un qui marche sur la surface du soleil. Mais pour les justes, la lumière les guérit, comme ceux qui partent en vacances aux Caraïbes, par exemple. Je pense que le soleil de justice fait référence à l'Éternel lui-même. Lorsque l'Éternel apparaîtra, il apportera la guérison à son peuple qui le craint. Il faut penser à la paix, la joie, la transformation totale, le renversement de tout le mal que le peuple a vécu sur terre. Et encore une fois, Dieu est en train de défendre sa réputation. L'Éternel fera ce qui est juste. Son peuple ne sera plus écrasé par les ennemis. Il ne sera plus en deuil. À ce jour-là, les justes du verset 18 seront véritablement justifiés par le soleil de justice. À ce jour-là, ce sera clair que craindre Dieu fait toute la différence. Et quelle magnifique promesse que Dieu nous donne à la fin du verset 20. Fin du verset 20, vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Zach Detwiller, qui est l'un des autres stagiaires dans l'église, il m'a récemment montré une vidéo des veaux qui sautaient de joie parce que le fermier les avait laissés sortir de l'étable. Et si vous avez deux minutes cet après-midi, franchement, ça vaut le coup de taper sur YouTube « Jumping Cows » et vous allez voir une petite image de la joie dont ce verset parle. C'est magnifique. La joie, la joie d'être en présence de notre Sauveur, la joie d'être guéri de toute maladie. Et verset 21, la joie qui vient de piétiner les méchants sous la plante de nos pieds. C'est une image choquante, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une image de cruauté ou de haine. Non, c'est une image de la pleine participation à la victoire et à la justice parfaite de Dieu. Dieu agira pour ceux qui le craignent. Alors vous pensez que ça ne fait aucune différence d'appartenir à Dieu? Vous pensez que ça ne change rien de servir Dieu? Alors Malachie nous dit, sachez qu'il y a un jour qui vient, qui arrive, où la différence entre le juste et le méchant sera on ne peut plus claire. Le soleil de justice anéantira les méchants comme un four à haute puissance crame une pizza. Et le soleil de justice restaurera tous ceux qui se confient en lui. Lorsque nous lisons Malachie, et surtout lorsque nous le lisons à la lumière du Nouveau Testament, je pense qu'il y a deux surprises qui méritent notre attention. La première surprise concerne l'identité de ceux qui bénéficient de ce jour à venir. Qui sont-ils? Qui sont-ils? La réponse, comme nous l'avons déjà souligné, c'est ceux qui craignent Dieu. Et d'un côté, ça, c'est extrêmement choquant. Pour les premiers lecteurs de ce livre, cela veut dire que la différence entre le juste et le méchant ne se fait pas sur base de son appartenance au peuple juif, ni du fait que l'on est revenu de l'exil, ni du fait que l'on travaille en tant que prêtre dans le temple. L'hypocrisie religieuse peut tromper les êtres humains, oui, mais elle ne peut pas tromper Dieu. Et pour l'instant, la plupart des lecteurs de Malachie se trouvent du côté des méchants, à moins qu'ils ne se répandent pas. C'est choquant. Mais de l'autre côté, cela est extrêmement rassurant. Peu importe votre âge, votre ethnicité, votre personnalité, si vous craignez l'Éternel et que votre nom se trouve dans son livre, vous serez sauvés le dernier jour. La promesse du salut est ouverte à toutes les nations, car le nom de l'Éternel sera craint parmi toutes les nations, comme Malachie 1,14 nous dit. Au final, le message du livre de Malachie est à la fois très exclusif, mais aussi très, très inclusif. Et la deuxième surprise concerne le moment du jour que Dieu prépare. À quel moment aura-t-il lieu? Vous savez peut-être que le nom Malachie signifie en hébreu « mon messager ». Le rôle de Malachie était de préparer ses lecteurs pour la venue de Dieu lui-même, le grand jour. Et verset 16 fait peut-être allusion à comment certains de ses auditeurs ont déjà fait demi-tour et ont craint Dieu. Mais en même temps, le ministère de Malachie dépasse clairement son livre. Les derniers versets du livre nous disent qu'un autre messager, à l'instar de Malachie, viendra pour ramener le peuple à Dieu. Comme Malachie d'ailleurs l'a déjà prédit en Malachie 3, verset 1. Lorsque ce messager-là arrive, le grand jour sera imminent. Lisons les versets 22 à 24. « Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, je lui ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. » Le Nouveau Testament nous dit que ce messager, ce nouveau messager, n'était pas Élie lui-même, mais Jean-Baptiste, le nouvel Élie. Et tout comme le ministère de Malachie, Le ministère de Jean-Baptiste consistait à préparer les gens à la venue de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Voici ce que Jean-Baptiste a dit en Luc 3. Il dit « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Voici la surprise du Nouveau Testament. C'est que le grand jour est déjà là, en quelque sorte. Jean-Baptiste, le messager, est déjà venu préparer le chemin du Seigneur. Le Seigneur est déjà venu sur terre dans la personne de Jésus. Mais il n'y avait pas de jugement, pas de feu, pas de destruction. En fait, lorsque Jésus était sur terre, c'était les chefs religieux et les prêtres, les grands prêtres qui se sont opposés à lui. Les mêmes personnes que Malachie cible dans son livre. Ce sont les chefs religieux et les grands prêtres qui crucifient l'Éternel. Et pourtant, dans la providence de Dieu, Jésus-Christ meurt à la croix pour prendre sur lui tout le feu du jugement de Dieu, afin que ceux qui craignent l'Éternel puissent avoir leur nom écrit dans le livre de vie. Et lorsque nous lisons les évangiles, ce sont les personnes soi-disant méchantes qui se repentent et qui se tournent au Seigneur. Le grand jour est déjà là. Mais aussi, selon le Nouveau Testament, le grand jour est encore à venir. Nous, en tant que chrétiens, nous vivons dans l'époque entre les deux venues de Jésus. Le soleil se lève, mais il n'est pas encore à sa pleine luminosité. Et la question que Malachie nous pose est celle-ci. Nous sommes-nous préparés? Sommes-nous prêts pour le grand jour? Nous arrivons tout doucement à la fin et j'aimerais terminer en m'adressant à quatre groupes de personnes différents. D'abord, un mot pour ceux qui ne se disent pas chrétiens. Il se peut qu'il y a quelqu'un parmi nous qui nous rejoint, peut-être pour la toute première fois, et qui n'a jamais entendu ce message avant. Si vous nous rendez visite ce matin, ou si ça fait déjà un petit moment que vous fréquentez notre église, et que vous avez des questions sur ce que j'ai dit ce matin, nous sommes ravis que vous soyez là. N'hésitez pas à venir m'en parler à la fin ou à quelqu'un d'autre, à Samuel ou l'un des autres dans l'église. Mais voici le message que Malachie a pour vous. Préparez-vous. Le grand jour arrive à grands pas. Malachie vous dit, revenez au Seigneur et il reviendra à vous. Craignez Dieu afin que votre nom soit écrit dans son livre avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est le message de Malachie pour vous. Deuxièmement, un mot pour ceux qui se disent religieux. J'espère que nous avons compris grâce au livre de Malachie qu'il ne suffit pas de juste fréquenter une église évangélique ou d'aimer la musique chrétienne ou de donner à manger aux STF juste pour échapper au grand jour du jugement de Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. En vrai, Malachie réserve sa plus forte condamnation pour ceux qui pensent que la religion humaine en soi, dépourvue de la crainte de Dieu, est le moyen de plaire à Dieu. Non, Malachie s'adresse à vous aussi en disant « Préparez-vous, préparez-vous. » Un mot pour ceux qui se sentent peut-être déçus par Dieu. Comme nous l'avons vu ce matin, Dieu est un Dieu de compassion. Il est attentif à nos souffrances, à nos douleurs, à nos peines. Cependant, il y a toujours le danger que notre déception glisse petit à petit dans la rébellion. Steve a parlé la semaine dernière de comment le péché découle toujours d'un manque de confiance en Dieu. Et combien ce serait facile d'être déçu par Dieu à cause de la petite taille de notre communauté, seulement pour modifier le message afin d'attirer plus de monde. Combien ce serait facile d'être déçu à cause des problèmes dans votre couple, seulement pour quitter votre épouse et vous marier avec une autre femme. Ça, c'est le genre de cas que dont Malachie parle. Malachie veut nous mettre en garde de ne pas commettre la même erreur que ses lecteurs. Malachie veut nous dire que ça fait toute la différence d'être chrétien, maintenant, en 2022, et pour l'éternité. Et dernièrement, un mot pour nous qui craignons Dieu. Quelle grâce, n'est-ce pas, de pouvoir trembler de joie devant notre grand Dieu. Il n'y a pas de plus grand privilège que de craindre Dieu et d'avoir son nom écrit dans le livre. Continuons de craindre Dieu. Parlons-nous l'un à l'autre après cette rencontre, comme ils le font au verset 16. Et annonçons ce message à d'autres. La raison pour laquelle le grand jour n'est pas encore venu, c'est parce que Dieu veut que les nations s'y préparent. Vous verrez sur les feuillets que vous avez reçus, que j'ai imprimé le passage de l'évangile de Luc, que Alexandra nous a lu tout à l'heure. Et dans Luc 7, Jésus parle de Jean-Baptiste. Et regardez le verset 29, il dit ceci, Jésus dit ceci. « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Qu'est-ce que cela veut dire, être plus grand que Jean-Baptiste? Tout simplement, ça veut dire que chaque chrétien est prophète, que chaque chrétien est messager de Dieu. Nous sommes tous des malachies, si vous voulez, si nous croyons en Jésus-Christ, que l'on soit enfant, ado, étudiant, adulte ou personne âgée. Notre ministère est plus grand que celui de Malachie et de Jean-Baptiste parce que l'Éternel est déjà venu. Jésus-Christ est déjà mort et ressuscité. Et la repentance doit maintenant être proclamée à toutes les nations. Et le Seigneur nous donne la responsabilité et le privilège d'avertir les nations et de les préparer pour son retour. Est-ce que ça fait vraiment une différence d'être chrétien? Bien sûr que oui. Dieu est attentif à ceux qui le craignent, à nous qui le craignons. Et Dieu agira pour ceux qui le craignent, pour nous qui le craignons. Alors que Dieu se serve de nous pour que d'autres puissent bénéficier de ce grand jour à venir aussi. Je vous invite à prier. Malachie 3, 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. « Ils seront à moi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Merci, notre Père, pour la différence que ça fait de t'appartenir. Merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir être ton bien propre et de connaître l'espérance de la venue de ton Fils, le soleil de justice. Nous voulons reconnaître que tu es un grand roi, digne de toute notre crainte. Et quelles que soient nos circonstances personnelles, aide-nous à être ceux qui te craignent encore et qui encouragent d'autres à faire de même, afin que ton nom soit craint parmi les nations. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen.